Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle étude de la parole de Dieu, du livre de l'Apocalypse. Je voudrais relire avec vous le verset qui a été l'objet de notre précédente étude. Au chapitre 1er de l'Apocalypse, je lis avec vous le verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Nous disions dans notre précédent message que la manifestation de la nuée de Dieu dans les Écritures est très souvent, pour ne pas dire toujours, en rapport avec l'obéissance. Soit la nuée se manifeste pour que l'homme obéisse, soit elle se manifeste parce que l'homme a obéi, soit elle se manifeste pour juger la désobéissance de l'être humain. Et on avait lu un certain nombre de textes de l'Écriture à ce sujet. Par exemple, la colonne de nuée se manifestait pour guider Israël dans ses marches, et on comprend bien que là, il fallait obéir à Dieu jour après jour. La gloire de l'Éternel s'est manifestée dans la nuée au moment où Dieu allait donner la manne, et on se souvient que Dieu pourvoyait aux besoins de son peuple, mais il fallait obéir. Il y avait des prescriptions très précises concernant le ramassage de la manne jour après jour et des prescriptions spéciales pour le sabbat. La nuée s'est manifestée au Sinaï, là où Moïse a reçu les tables de la loi, et Dieu, bien évidemment, s'attendait à l'obéissance de son peuple à ses commandements. La nuée s'est manifestée également lors de la dédicace du temple de Salomon, et l'Écriture nous montre à quel point Salomon et ceux qui ont aidé à la construction du temple se sont soumis aux prescriptions de Dieu dans le détail. Il est question du modèle qui avait été donné, du plan de Dieu par un écrit de sa main, et Salomon s'est conformé précisément à toutes les ordonnances de Dieu à ce niveau-là. La nuée s'est manifestée lors de la vocation d'Ésaïe dans le temple. Dieu attendait de cet homme qu'il obéisse. La nuée s'est manifestée lors de la vocation d'Ézéchiel. Et là encore, Dieu attendait qu'Ézéchiel obéisse parfaitement à l'appel de Dieu. Et puis, la nuée s'est manifestée lors de la transfiguration de Jésus. Moïse et Élie sont apparus à Jésus. Ils ont parlé du départ de Jésus pour Jérusalem. Et on savait que là, Jésus allait obéir jusqu'à la mort de la croix. Et puis, on a tous les textes de l'Écriture nous montrant le retour de Jésus avec les nuées, sur les nuées, et là le message est clair, Jésus revient pour récompenser ceux qui auront obéi à la foi et qui l'auront reçu comme leur Seigneur et leur Sauveur, mais il revient aussi pour punir ceux qui n'auront pas obéi à l'Évangile. Je reviens donc sur notre verset, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé. » Tout œil le verra. Il s'agit ici, bien évidemment, de la seconde phase du retour de Jésus, puisque lors de la première phase de son retour, lorsqu'il va revenir pour l'Église, son retour va se faire en un clin d'œil. Jésus revient enlever l'Église de la terre, et dans cette première phase, tout œil ne verra pas le retour de Jésus. Donc ici, il est bien question dans l'Apocalypse, au chapitre 1er, verset 7, de la seconde phase du retour de Jésus. Tout œil le verra. les nations de la terre vont découvrir à ce moment-là que leur politique les a privés de toute participation future au royaume de Christ ici-bas. Et on comprend bien qu'il y aura de grandes lamentations. La parole de Dieu précise, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a annoncé dans son grand discours au chapitre 24 de Matthieu, le verset 30. Jésus dit, « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Le monde passera alors par une souffrance terrible, une souffrance qui va surpasser toutes les autres. D'abord, il y aura le cri de douleur d'Israël en premier et en particulier, parce que Israël va découvrir à ce moment-là celui qu'il a autrefois percé et qui est réellement son Messie. C'est ce que le prophète Zacharie déclare de la part de Dieu au chapitre 12 et au verset 10 de son livre. Dieu dit « Alors, je répandrai sur la maison de David et les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Et non seulement la douleur sera pour Israël, parce que ils vont voir à ce moment-là celui qu'ils ont rejeté et percé, mais la douleur sera évidemment pour les nations qui auront rejeté le Sauveur qui leur était destiné. Et à propos d'Israël qui verra celui qu'ils ont percé, on a quelques détails là-dessus au moment de la crucifixion. Dans l'évangile de Jean au chapitre 19, verset 34, à propos de la crucifixion de Jésus, il est dit « Un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées, précise l'Évangile, afin que l'Écriture soit accomplie, aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. » Et dans ce moment-là, dans cette phase très glorieuse du retour de Jésus, Israël sera miraculeusement délivré de tous ses adversaires. Notre texte dit donc « Et tout œil le verra. Ceux qui ne le voudraient pas y seront contraints. Ils verront Jésus. Le monde qui aura renié Christ sera malgré lui le témoin de sa gloire future. Et il se soumettra à son règne. Les rois de la terre qui se seront moqués de Jésus et qui se sont moqués de lui au fil du temps verront le Seigneur Jésus revenir dans son règne glorieux. Le jour vient où le ciel va se rire des chefs des nations et où le roi des rois leur parlera dans sa colère. On aura ici l'accomplissement de ce que le psalmiste dit au chapitre 2 des psaumes, le psaume 2. Certains versets ont déjà eu leur accomplissement, d'autres sont à venir, je vais le souligner. Psaume 2, verset 1er, « Pourquoi se tumulte parmi les nations ces vaines pensées parmi les peuples ? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils ? et les princes se liquent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint ? On sait par les actes des apôtres que ces versets-là peuvent s'appliquer entre autres au moment où on a arrêté Jésus et on l'a crucifié. Les politiques avec les religieux se sont bien mis d'accord, ils se sont ligués ensemble contre Jésus pour le crucifier. Et puis au verset 3 du psaume 2, Dieu dit « Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes ». On peut appliquer ce verset-là à la résurrection de Jésus. La mort n'a pas pu le retenir, on a descendu Jésus de la croix, on l'a mis dans un sépulcre, on a roulé la pierre à l'entrée du sépulcre, mais Dieu se moque de tout cela quand sa puissance s'est manifestée le jour de Pâques. La parole s'est accomplie, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Et puis on arrive au verset 4 qui s'applique entre autres à la seconde phase du retour de Jésus qui nous préoccupe aujourd'hui dans notre étude. Il est écrit « Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur, et Dieu dit « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte ». Et l'on sait très bien que la conséquence glorieuse de cette seconde phase du retour de Jésus, c'est qu'il va établir son règne de 1000 ans, un règne glorieux pour toute la terre. S'accomplira alors cette parole de Dieu le Père, « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Je voudrais souligner ceci, c'est que lors de cette seconde phase du retour de Jésus, il sera trop tard pour se repentir. Ce moment va donc être terrible pour les impénitents, pour les incrédules, pour tous ceux qui auront rejeté le salut de Dieu. D'autant plus terrible que le juge, qu'est Jésus, portera encore les marques de souffrance dont ils n'auront pas profité, et il portera les marques d'un amour éternel qu'ils auront, eux, méprisé. Et on découvre cette parole dans la seconde épître de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens au chapitre 1er, verset 6, où Dieu dit aux chrétiens « Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. » Donc, ce retour de Jésus va être pour le monde un temps d'angoisse, un temps de lamentation, de souffrance terrible, parce que Jésus revient comme un juge pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'auront pas obéi à l'évangile du Seigneur Jésus. Notre verset d'aujourd'hui dans l'Apocalypse précise non seulement que tout œil le verra, mais il est aussi précisé « Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Il y a une autre traduction, pardon, qui dit ceci « Toutes les tribus de la terre seront en deuil. » Et le texte original dit « Que toutes les tribus de la terre se frapperont, sous-entendu la poitrine, en signe de désespoir. » Le jugement s'étendant à l'humanité entière, ce seront toutes les tribus de la terre qui se frapperont la poitrine. Et en terminant cette brève étude d'aujourd'hui, et on ira plus loin prochainement, je dirais qu'il vaut mieux se frapper la poitrine maintenant, en signe de repentance, que de le faire trop tard, quand ce sera l'heure du jugement. Vous aurez en mémoire ce que l'évangéliste Luc déclare au chapitre 23 de son évangile et au verset 26. Il relate la crucifixion de Jésus et il dit, comme il l'emmenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de peuples et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici, des jours viendront où l'on dira, « Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. » Alors ils se mettront à dire aux montagnes, « Tombez sur nous !» et aux collines, « Couvrez-nous !» Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire en terminant que la première phase du retour de Jésus va être notre joie, notre gloire. Elle est, cette phase du retour de Jésus, notre espérance magnifique. Pour ce qui est de la seconde phase, qui a été l'objet de notre étude ici, ce retour de Jésus va être un temps terrible pour la terre. La parole de Dieu nous dit, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Et si il y a parmi mes auditeurs aujourd'hui quelqu'un qui ne s'est pas encore tourné vers le Seigneur, alors je vais reprendre à mon compte cette parole de l'apôtre Paul, je vous en supplie, au nom du Seigneur Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.